Chapitre 29. L'alliance avec Israël dans le pays de Moab. Le gouvernement et la miséricorde. Ce chapitre est comme le résumé et l'application pratique de tout ce qui précède dans ce livre. Le dernier verset du chapitre 28 en constitue l'introduction. Ce sont là les paroles de l'alliance que l'Éternel commanda à Moïse de faire avec les fils d'Israël dans le pays de Moab, outre l'alliance qu'il avait faite avec eux à Horeb. Ce passage parle d'une alliance spéciale faite avec les enfants d'Israël au pays de Moab et en vertu de laquelle ils devaient être amenés dans le pays de la promesse. Cette alliance est distincte de l'alliance traitée à Sinaï, comme aussi de l'alliance faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Ce n'est ni purement la loi, ni la pure grâce, mais le gouvernement exercé dans une miséricorde souveraine. Il est clair qu'Israël ne pouvait pas entrer dans le pays sur le principe de l'alliance de Sinaï ou d'Horeb, puisqu'ils y avaient complètement failli en faisant le veau d'or. Ils avaient perdu tout droit à la possession du pays, seule la souveraine miséricorde de Dieu, exercée envers eux à la suite de l'ardente intercession de Moïse, les avait sauvés d'une destruction immédiate. Il est également clair qu'Israël ne pouvait pas entrer dans le pays sur le principe de l'alliance de grâce traitée avec Abraham, car s'il en avait été ainsi, il n'aurait pu en être chassé. Ni l'étendue du pays qu'ils possédèrent, ni le temps dont ils en jouirent, ne répondent au terme de cette alliance. Ce fut suivant les conditions de l'alliance faite en Moab qu'ils entrèrent en possession temporaire et limitée du pays de Canaan. Mais ils ont failli sous l'alliance faite au pays de Moab, comme sous celle d'Horeb, c'est-à-dire aussi complètement sous le gouvernement que sous la loi. Et c'est pour cela qu'ils ont été expulsés du pays et dispersés sur toute la terre. Mais ce n'est pas pour toujours. La semence d'Abraham possédera encore le pays de Canaan selon les conditions magnifiques de l'alliance primitive. Les dons de grâce et l'appel de Dieu sont sans repentir. Romains 11, verset 29. Les dons et l'appel ne doivent pas être confondus avec la loi et le gouvernement. La nouvelle et éternelle alliance de grâce, ratifiée par le précieux sang de l'agneau de Dieu, sera glorieusement accomplie. Voici des jours viennent, dit le Seigneur, et je conclurai pour la maison d'Israël et pour la maison de Juda une nouvelle alliance, non selon l'alliance que j'ai faite avec leur père, au jour où je les pris par la main pour les tirer du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi je les ai délaissés, dit le Seigneur. Car c'est ici l'alliance que j'établirai pour la maison d'Israël, après ces jours-là, dit le Seigneur, en mettant mes lois dans leur entendement, je les écrirai aussi sur leur cœur, et je leur serai pour Dieu, et ils me seront pour peuple. Et ils n'enseigneront point chacun son concitoyen, et chacun son frère, disant, connais le Seigneur, car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, car je serai clément à l'égard de leur injustice, et je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés ni de leurs iniquités. En disant une nouvelle, il a rendu ancienne la première. Or ce qui devient ancien et qui vieillit est prêt de disparaître. Hébreux 8, versets 8 à 13. Nous devons soigneusement nous garder d'appliquer ce beau et précieux passage à l'Église. Il ferait tort à la fois à la vérité de Dieu, à l'Église et à Israël. Vu son immense importance, nous avons plusieurs fois insisté sur ce point dans le cours de nos études sur le Pentateuque. Si on confond Israël et l'Église, on ne peut comprendre la parole de Dieu. Les deux choses sont aussi distinctes que le ciel et la terre. Nous devons nous garder de toucher au dessein de la prophétie et à la vraie application des promesses de Dieu. Nous n'avons aucun droit d'intervenir dans la sphère divinement tracée des alliances. L'apôtre nous dit positivement, en Romains 9, verset 4, qu'elles appartiennent à Israël. L'Église est formée pendant le temps du rejet de Christ pour être associée avec lui, là où il est maintenant caché dans les cieux, et elle est appelée à partager sa gloire dans le jour qui vient. Sa place, ses privilèges, ses espérances sont entièrement célestes. Ce que les miracles ne peuvent faire. Et Moïse appela tout Israël et leur dit, Vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait devant vos yeux dans le pays d'Égypte, au Pharaon et à tous ses serviteurs et à tout son pays. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ses signes et ses grands prodiges. Mais l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour connaître, ni des yeux pour voir, ni des oreilles pour entendre jusqu'à ce jour. Versets 1 à 4. Cela est particulièrement solennel. Les miracles et les signes les plus étonnants peuvent s'opérer devant nos yeux et laisser nos cœurs insensibles. Ces choses peuvent produire un effet passager sur l'esprit et les sentiments naturels, mais si la conscience n'a pas été amenée dans la lumière de la présence divine et que le cœur n'a pas été touché, il n'y aura aucun résultat permanent. Nicodème concluait, des miracles du Christ, qu'il était un docteur venu de Dieu. Mais cela ne suffisait pas. Il avait à apprendre cette profonde vérité, « Il vous faut être né de nouveau », voir Jean 3. Une foi fondée sur des miracles peut laisser une âme sans la possession du salut, sans conversion, terriblement responsable sans doute, mais absolument inconvertie. Nous lisons à la fin du second chapitre de l'Évangile de Jean que plusieurs professèrent de croire en Christ quand ils virent ces miracles. Mais Jésus lui-même ne se fiait pas à eux. Il doit y avoir une nouvelle vie, une nouvelle nature, et c'est ce que les miracles et les signes ne peuvent pas communiquer. Il nous faut être nés de nouveau, nés de la parole et de l'Esprit de Dieu. La nouvelle vie est communiquée par la semence incorruptible de l'Évangile de Dieu, implantée dans le cœur par la puissance du Saint-Esprit. Ce qu'il nous faut, ce n'est pas une foi de l'intelligence fondée sur des miracles, mais la foi du cœur au Fils de Dieu. Les soins de Dieu envers son peuple. Et je vous ai conduit 40 ans par le désert. Vos vêtements ne se sont pas usés sur vous, et ta sandale ne s'est pas usée à ton pied. Vous n'avez pas mangé de pain, et vous n'avez bu ni vin ni boisson forte, afin que vous connaissiez que moi, l'Éternel, je suis votre Dieu. Versets 5 et 6. Soins merveilleux. La main même de Dieu les vêtait et les nourrissait. L'homme mangea le pain des puissants. Psaume 78, verset 25. Il buvait d'un rocher spirituel qui les suivait, et le rocher était le Christ. 1 Corinthiens 10, verset 4. Cette source pure les exaltérait dans le désert aride, et la manne céleste les soutenait jour après jour. Mais, hélas, ils se fatiguèrent de la nourriture céleste et convoitèrent d'autres choses. Combien il est triste que nous fassions comme eux. Combien il est humiliant que nous sachions si peu apprécier celui qui devrait être si précieux pour nous, ce Jésus que Dieu nous a donné pour être notre vie, notre objet, notre tout. Nos cœurs sont toujours enclins à rechercher les misérables vanités et les folies de ce pauvre monde qui passe, ses richesses, ses honneurs, ses plaisirs, toutes ces choses qui périssent et qui, même si elles duraient, ne sont pas à comparer avec les richesses insondables du Christ. Éphésiens 3, verset 8. Que Dieu nous donne, selon les richesses de sa gloire, d'être fortifiés en puissance par son esprit quant à l'homme intérieur, de sorte que le Christ habite, par la foi, dans nos cœurs, et que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour, afin que nous soyons capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur et la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, versets 16 à 19. Et vous êtes parvenus en ce lieu-ci, et Sion, roi de Hesbon, et Og, le roi de Bazan, sont sortis à notre rencontre pour nous livrer bataille, et nous les avons battus. Et nous avons pris leur pays, et nous l'avons donné en héritage aux Rubénites et aux Gadites et à la demi-tribu des Manassites. Versets 7 à 8. On se tromperait grandement en comparant cela avec ce que l'histoire raconte, par exemple, touchant l'invasion de l'Amérique du Sud par les Espagnols. Israël avait l'autorité directe de Dieu pour agir comme il le fit à l'égard de Sion et d'Og, tandis que les Espagnols n'étaient en rien autorisés à traiter comme ils le firent les habitants de l'Amérique du Sud. Gardez les commandements de Dieu. Vous garderez donc les paroles de cette alliance et vous les pratiquerez, afin que vous prospériez dans tout ce que vous ferez. Verset 9. L'obéissance simple à la parole de Dieu a été de tout temps, et sera toujours, le profond et réel secret de toute vraie prospérité. Il va sans dire que, pour le chrétien, la prospérité n'est pas dans les choses terrestres ou matérielles, mais dans les choses célestes et spirituelles. Et il ne faut jamais oublier que les progrès ou la prospérité dans la vie chrétienne ne sont possibles que par une obéissance inconditionnelle à tous les commandements de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et il vous sera fait. En ceci mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Jean 15, versets 7 à 10. Telle est la vraie prospérité chrétienne. Vous vous tenez tous aujourd'hui devant l'Éternel, votre Dieu, vos chefs, vos tribus, vos anciens et vos magistrats, tout homme d'Israël, vos enfants, vos femmes et ton étranger qui est au milieu de ton camp, ton coupeur de bois aussi bien que ton puiseur d'eau, afin que tu entres dans l'alliance de l'Éternel, ton Dieu, et dans son serment que l'Éternel, ton Dieu, fait aujourd'hui avec toi, afin qu'il t'établisse aujourd'hui pour être son peuple et pour qu'il soit ton Dieu, ainsi qu'il te l'a dit et ainsi qu'il l'a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et ce n'est pas avec vous seulement que je fais cette alliance et ce serment, mais c'est avec celui qui est ici, qui se tient avec nous aujourd'hui devant l'Éternel, notre Dieu, et avec celui qui n'est pas ici aujourd'hui avec nous. Car vous savez comment nous avons habité dans le pays d'Égypte, et comment nous avons passé à travers les nations que vous avez traversées, et vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, du bois et de la pierre, de l'argent et de l'or, qui sont parmi eux. Versets 10 à 17. Ce sérieux appel est non seulement général, mais aussi tout à fait individuel. Cela est très important à remarquer. Nous sommes toujours enclins à voir les choses de façon vague et générale et à laisser de côté l'application de la vérité à notre conscience individuelle. C'est une grave erreur et une perte sérieuse pour nos âmes. Chacun de nous est responsable d'obéir sans réserve aux commandements de notre Seigneur. C'est ainsi que nous entrons dans la jouissance réelle de notre relation avec lui. Il s'agit simplement d'avoir ses commandements serrés dans nos cœurs et agissant sur nos consciences. Ils seront alors manifestés dans notre vie. Tel est le vrai secret pour réaliser habituellement notre relation avec notre Père et avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que personne ne s'imagine pouvoir jouir d'une relation de proximité avec Dieu tout en vivant dans la négligence habituelle des commandements de notre Seigneur. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Voilà le grand point. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, verset 15. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7, verset 21. Car quiconque fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Matthieu 12, verset 50. La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu. 1 Corinthiens 7, verset 19. Quelle parole appropriée à nos jours de christianisme relâché, négligé et mondain. Ce côté pratique des choses est de toute importance. En cherchant à mettre de côté tout ce qui ressemble au légalisme, nous courons le grand risque de nous jeter dans un mal opposé, le relâchement charnel. Il est parfaitement vrai que nous sommes amenés dans la relation d'enfant par la grâce souveraine de Dieu. Mais cette relation a des affections qui lui sont propres. Elle a ses devoirs et ses responsabilités. En les reconnaissant réellement, nous aurons le vrai remède contre ce terrible mal du relâchement charnel qui prévaut de tous côtés. Si nous sommes délivrés des œuvres de loi, et en tant que vrais chrétiens nous le sommes, ce n'est pas pour ne rien faire, ni pour nous complaire à nous-mêmes, mais c'est afin que les œuvres de vie se produisent en nous à la gloire de celui dont nous portons le nom et à qui nous appartenons. Il a droit à notre amour, à notre obéissance et à notre service. Prendre garde l'un à l'autre. Écoutons maintenant le solennel appel du législateur. Il exhorte le peuple à prendre garde, de peur qu'il n'y ait parmi vous, hommes ou femmes ou familles ou tribus, dont le cœur se détourne aujourd'hui d'avec l'Éternel notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations, de peur qu'il n'y ait parmi vous une racine qui produise du poison et de l'absinthe. Verset 18. Ceci nous rappelle ces mots de l'Épître aux Hébreux, veillant de peur que quelqu'un ne manque de la grâce de Dieu, de peur que quelque racine d'amertume bourgeonnant en haut ne vous trouble et que par elle plusieurs ne soient souillés. Hébreux 12, verset 15. Cette exhortation montre la solennelle responsabilité de tous les chrétiens les uns envers les autres, le soin que nous devons prendre l'un de l'autre. Nous ne sommes pas tous appelés à être pasteurs ou docteurs. Le passage cité ne s'adresse pas particulièrement à ceux qui sont tels. Il concerne tous les chrétiens et nous devons y faire attention. Il y a dans l'Église un grand nombre de vrais pasteurs, comme aussi de tous les autres dons. Mais au milieu de notre ruine et de notre misère spirituelle, notre Seigneur déploie ses tendres compassions. Et si seulement nous voulions nous humilier sous sa puissante main, il nous rendrait capables de combler de diverses manières cette lacune de dons pastoraux au milieu de nous. Nous pourrions, avec le secours de sa grâce, veiller avec plus de diligence et d'amour les uns pour les autres et chercher les progrès spirituels et la prospérité l'un de l'autre. Tout en évitant soigneusement les investigations indiscrètes et l'espionnage, nous pouvons prendre un intérêt plein d'amour les uns pour les autres et exercer avec prière la sainte et soigneuse vigilance qui peut empêcher quelques racines d'amertume de bourgeonner au milieu de nous. Le manque de vrais pasteurs dans l'Église devrait nous pousser à supplier le Seigneur de nous rendre capables d'exercer les soins d'amour et la vigilance fraternelle les uns à l'égard des autres pour notre bien spirituel. Quelle terrible racine que celle dont il est parlé! Combien elles sont amères et combien s'en étendent souvent les développements! Quel irréparable dommage elles causent! Combien sont souillés par elles! Que de précieux liens d'amitié elles ont rompus, et combien de cœurs elles ont brisés! Dans bien des cas, quelques soins pastoraux et judicieux, quelque attention fraternelle, un conseil affectueux et pieux, auraient détruit le principe du mal dans sa racine et empêché ainsi une somme incalculable de maux et de douleurs. Le jugement de Dieu contre ceux qui méprisent sa parole. Le législateur place devant nous un tableau solennel du jugement de celui qui a donné lieu au bourgeonnement de la racine d'amertume. Et qu'il n'arrive que quelqu'un, en entendant les paroles de ce serment, ne se bénisse dans son cœur en disant « J'aurai la paix, lors même que je marcherai dans l'obstination de mon cœur, afin de détruire ce qui est arrosé et ce qui est altéré. » L'Éternel ne voudra pas lui pardonner, mais la colère de l'Éternel et sa jalousie fumeront alors contre cet homme. Et toute la malédiction qui est écrite dans ce livre reposera sur lui. Et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. Versets 19 et 20. Terrible avertissement, adressé à ceux qui agissent comme racines d'amertume au milieu du peuple de Dieu et à tous ceux qui les encouragent. Et l'Éternel le séparera de toutes les tribus d'Israël pour le malheur, selon toutes les malédictions de l'alliance qui est écrite dans ce livre de la loi. Et la génération à venir, vos fils qui se lèveront après vous, et l'étranger qui viendra d'un pays éloigné diront, lorsqu'ils verront les plaies de ce pays, et ses maladies, dont l'Éternel l'aura affligé, et que tout son sol n'est que soufre et sel, un embrasement, qu'il n'est pas semé, qu'il ne fait rien germer, et qu'aucune herbe n'y pousse, comme la subversion de Sodome et de Gomorre, d'Adma et de Tseboïm, que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur. Toutes les nations diront, pourquoi l'Éternel a-t-il fait ainsi à ce pays? D'où vient l'ardeur de cette grande colère? Et on dira, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel, le Dieu de leur père, qu'il avait faite avec eux quand il les fit sortir du pays d'Égypte. Et ils sont allés et ont servi d'autres dieux, et se sont prosternés devant eux, des dieux qu'ils n'avaient pas connus, et qu'ils ne leur avaient pas donnés en partage. Et la colère de l'Éternel s'est embrasée contre ce pays, pour faire venir sur lui toute la malédiction écrite dans ce livre. Et l'Éternel les a arrachés de dessus leur terre dans sa colère, et dans sa fureur, et dans sa grande indignation, et les a chassés dans un autre pays, comme il paraît aujourd'hui. Versets 21 à 28. Combien ces paroles sont solennelles! Avec quelle puissance elles font ressortir ce que dit l'apôtre Paul, C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux 10, verset 31. Et encore, notre Dieu est un feu consumant. Hébreux 12, verset 29. L'Église professante devrait faire attention à de tels avertissements. Elle a beaucoup d'instructions à retirer de l'histoire des voies de Dieu envers son peuple Israël. Romains 11 est parfaitement clair et concluant sur ce point. L'apôtre, en parlant du jugement divin contre les branches incrédules de l'olivier, s'adresse à la chrétienté en ces termes. « Or, si quelques-unes des branches ont été arrachées, et si toi qui étais un olivier sauvage as été hanté au milieu d'elles, et es devenu coparticipant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas contre les branches. Mais si tu te glorifies, ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été arrachées afin que moi je fusse hanté. Bien, elles ont été arrachées pour cause d'incrédulité, et toi tu es debout par la foi. Ne t'enorgueillis pas, mais crains. Si en effet Dieu n'a pas épargné les branches qui sont telles selon la nature, qu'il ne t'épargne pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. La sévérité envers ceux qui sont tombés, la bonté de Dieu envers toi, si tu persévères dans cette bonté, puisque autrement, toi aussi, tu seras coupé. Romains 11, versets 17 à 22. Hélas, l'Église professante n'a pas persévéré dans la bonté de Dieu. Son histoire, considérée à la lumière de l'Écriture, le montre de façon évidente. Ainsi, elle n'a plus devant elle que la colère du Dieu Tout-Puissant. Les vrais croyants, qui se sont mêlés à la masse corrompue du corps professant, en seront tirés et seront rassemblés à la place préparée pour eux dans la maison du Père. Ils devront alors, s'ils ne l'ont pas fait auparavant, reconnaître le tort qu'ils ont eu de rester en relation avec ce qui était opposé d'une manière si flagrante à la pensée de Christ, telle que les Saintes Écritures nous la révèlent. Mais quant à la grande chose connue sous le nom de chrétienté, elle sera vomie et retranchée. À ces chrétiens de nom, il sera envoyé une énergie d'erreur pour qu'ils croient au mensonge, afin que tout cela soit jugé, qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. 2 Thessaloniciens 2, versets 11 et 12. Choses cachées et choses révélées. Avant de terminer ce chapitre, arrêtons-nous sur son dernier verset. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos fils, à toujours, afin que nous pratiquions toutes les paroles de cette loi. Verset 29. Les choses révélées sont celles que nous avons eues devant nous dans ce livre. Les choses cachées sont les ressources de grâce que Dieu avait en réserve pour les déployer quand le peuple aurait totalement manqué à pratiquer tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Les choses révélées sont celles qu'Israël aurait dû faire et n'a pas faites. Les choses cachées sont celles que Dieu veut faire malgré les tristes et honteux manquements d'Israël. Elles sont évoquées dans les chapitres suivants. Ces conseils de la grâce de Dieu et de sa souveraine miséricorde se déploieront quand Israël aura appris à fond la leçon résultant de son manquement complet aux alliances de Moab et d'Horeb. Ce passage encourage donc nos cœurs à sonder ces choses qui, quoique cachées pour Israël dans les plaines de Moab, nous sont pleinement et clairement révélées pour notre profit, notre consolation et notre édification. Le Saint-Esprit est descendu au jour de la Pentecôte pour conduire les disciples dans toute la vérité. Le canon des Écritures est complet. Tous les desseins et les conseils de Dieu sont pleinement révélés. Le mystère de l'Église complète le cercle entier de la vérité divine. L'apôtre Jean pouvait dire à tous les enfants de Dieu : « Et vous, vous avez l'onction de la part du Saint, et vous connaissez toutes choses. » 1 Jean 2, verset 20. Ce verset 29 de Deutéronome 29 n'a évidemment pas pour but de ralentir nos progrès dans la connaissance des choses profondes de Dieu. Nous avons reçu non l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui est de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été librement données par Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 12. Et l'Esprit sont de toutes choses, même les choses profondes de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 10. L'ennemi cherche toujours à garder les âmes dans l'obscurité, alors qu'elles devraient marcher à la lumière brillante de la révélation divine. Il s'efforce de les retenir à l'état de petits enfants se nourrissant de lait, tandis que nous devrions, comme des hommes faits, nous nourrir de cette viande dont l'Église est si amplement pourvue.